Si ce que nous venons de chanter est vrai, alors nous pouvons être reconnaissants. Et cela est vrai. Nous devons seulement reconnaître notre bonheur et comprendre que du côté de Dieu, vraiment, tout est accompli. Dieu ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. Il a tout fait. Sur la croix, notre Seigneur a dit, c'est accompli. Il n'y avait pas plus que ça. L'acte des fautes est effacé et déchiré. Les péchés sont pardonnés. Il a rendu toutes choses bien. Il nous a ramenés de la chute. Maintenant, ça dépend seulement de nous. Est-ce que nous l'acceptons avec joie, avec reconnaissance? Et que nous puissions... Ensuite, ça dépend de ce que nous faisons avec. Pas seulement le recevoir, mais conserver ce qu'il nous a accordé, ce qu'il nous a donné, que nous puissions le vivre et le transmettre aux autres. Justement, nous, comme enfants de Dieu, nous devons faire attention, veiller, faire attention, car c'est à nous que l'ennemi veut nuire. Il veut nous retenir. Il veut même faire en sorte que nous ne soyons pas une bénédiction pour les uns pour les autres. Mais Dieu veut bénir pour que nous soyons justement nous puissions être une bénédiction pour les autres. Mais c'est nécessaire de faire attention et de contrôler nos pensées et nos paroles. De veiller sur nos pensées et nos paroles. Comme il n'y a pas longtemps, nous l'avons lu, que tout le corps, chaque membre du corps doit être touché par la lumière divine et ainsi soumis à la parole de Dieu. Seulement comme ça, si nous nous sommes soumis à la parole de Dieu, alors l'ennemi avec son pouvoir se soumettra aussi à nous. Devant nous, l'ennemi n'a aucun respect, aucune attention, mais devant Dieu, il doit avoir du respect et de l'attention. Et si nous nous sommes soumis à Dieu, alors l'ennemi doit obligatoirement aussi se soumettre à nous. C'est pour cette raison que le Seigneur déjà autrefois a dit, je vous donne l'autorité sur tout le pouvoir de l'ennemi. Pourquoi est-ce qu'il pouvait le dire? Parce qu'il savait qu'il vaincrait tout le pouvoir de l'ennemi et qu'il a vaincu tout le pouvoir de l'ennemi. Et avec cela, il nous a accordé l'autorité sur l'ennemi déjà vaincu. Sur le pouvoir de l'ennemi déjà vaincu. Et ça, je l'ai déjà dit ici quelque part, ici, dans de telles réunions, nous devons tous faire attention. Éveiller l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, essayera de déranger l'atmosphère. Et nous voulons, s'il vous plaît, nous voulons faire attention à ce que cela ne lui réussisse pas, en nous ou bien par nous, de faire quelque chose. Nous sommes ici pour rencontrer le Seigneur, pour expérimenter Dieu. Et je suis convaincu que nous aurons encore des heures puissantes. Mais il ne s'agit pas seulement de l'enseignement. Il s'agit de ce que chacun individuellement trouve sa place dans le royaume de Dieu, prenne sa position en Christ et reconnaisse ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu en Christ. Nous parlons principalement du message de la fin des temps. Mais cela ne doit pas seulement être un enseignement ou bien de l'enseignement. Il faut que cela devienne une réalité. Et là aussi, nous devons être conscients que Dieu poursuit avec ce qu'il a accompli pour nous un sens et un objectif bien précis. Et ainsi que les jours qui sont devant nous puissent servir à ce que plus profondément nous puissions entrer et pénétrer dans ce que Dieu nous a préparé. Nous voulons aujourd'hui passer à une observation étrange de la parole de Dieu. Vous savez, nous devons laisser richement habiter la parole du Christ parmi nous. Et ça, nous voulons aussi le faire. D'abord, je lis, vous pouvez bien tous écouter. J'ai l'impression d'être dans un angle mort. D'abord, je lis de Jérémie, le chapitre 31, à partir du verset 33. Une parole que le frère Kupfer a rapidement retrouvée hier. Jérémie 31. Oui, du verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai alors leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'aura besoin d'enseigner son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Une parole merveilleuse qui s'est accomplie alors que Dieu en Christ a fait la nouvelle alliance. Il voulait être notre Dieu et il est devenu notre Dieu. Dieu, il a toujours été Dieu déjà. Mais maintenant, il voulait être notre Dieu. Devenir notre Dieu, pas seulement être Dieu, mais devenir notre Dieu. Ton Dieu, mon Dieu, vous connaissez la différence. De Dieu, chacun parle, mais cette relation personnelle, c'est cela que Dieu en Christ a rétabli. Parce que en Christ, il est lui-même devenu personnellement homme. Et il s'agit de cette relation personnelle avec Dieu que nous, comme fils et filles de Dieu, nous avons reçu. Un fils n'a pas besoin de rétablir sa relation avec le Père, avec son Père. Cette relation existe déjà depuis sa naissance, elle est là. C'est la même chose. Maintenant, notre relation à notre Père céleste doit être là, doit exister. Si nous sommes nés de Dieu, la relation avec Dieu est déjà là. Il suffit que l'étincelle rencontre et touche la semence de la parole qui a été placée en nous pour que la vie nouvelle puisse ensuite apparaître. Et si cela a lieu, à ce moment-là, alors nous aussi nous pouvons dire notre Père, pas seulement Père, mais notre Père, mon Père, pas seulement Père, mais mon Père. Cette relation personnelle avec Dieu a été rétablie parce que Dieu personnellement, en forme humaine, comme sauveur, s'est manifesté. Nous sommes ainsi devenus des fils et des filles de Dieu. Il a été fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est ainsi que l'un n'a pas besoin d'enseigner l'autre sur cela. Dieu nous a à l'avance accordé l'enseignement et ainsi par l'alliance, il a réalisé, accompli cela, ce qu'il a promis. J'aimerais lire aujourd'hui plusieurs écritures pour nous montrer comment est-ce que, aussi dans la Bible, certaines expressions sont exprimées différemment et ensuite nous montrer comment est-ce que par la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, elles peuvent être justement et correctement classées dans l'ordre biblique et comment est-ce qu'elles doivent être classées dans l'ordre biblique. Je commence avec 2 Pierre, chapitre 3. Et pour ceux qui attendent particulièrement qu'une position soit prise sur les questions qui concernent le message, vous recevrez aussi tous vos réponses. Mais d'abord, nous voulons passer à l'observation de la parole et ensuite nous viendrons au message pour notre temps. Nous allons avoir des questions et des réponses sur tout ce qui a une importance pour nous. Ici, dans 2 Pierre, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui dans la paix. Et considérez la longanimité de notre Seigneur comme votre salut. Comme notre frère bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il en est de même dans toutes ses épîtres lorsqu'il y parle de ces choses. Dans ces textes, cependant, il y a beaucoup de choses difficiles à comprendre que les ignorants et les désorientés, mal affermis, déforment à leur propre perte, tout comme ils le font avec le reste des Écritures. C'est pourquoi, bien-aimés, puisque vous le savez d'avance, ces choses, soyez sur vos gardes de peur d'être emportés par l'erreur d'hommes sans scrupules et précision. Et d'être chassés de votre propre état de foi ferme. Croissez plutôt dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire maintenant et pour le jour de l'éternité. Quelle parole merveilleuse d'exhortation et de rappel à l'ordre et d'avertissement. Les apôtres étaient aussi des bergers et comme bergers, ils portaient dans leur cœur le bonheur de l'Église. Il n'y a aucun homme de Dieu qui est établi dans le royaume de Dieu avec un service, qui ne prend pas soin de l'Église, qui n'aurait pas une détresse, un fardeau dans son cœur pour toute l'Église du Seigneur. Dans un autre verset, Pierre écrit que nous ne devons pas dominer sur le peuple de Dieu, mais étant les modèles du troupeau et les servir avec le don que Dieu nous a donné. C'est ainsi que tous les hommes de Dieu l'ont fait. Et c'est en cela que cela a été prouvé qu'un homme est envoyé de Dieu ou pas. Dans les jours de Salomon, en fait, cet amour divin, n'est-ce pas, a été ouvertement présenté par un exemple naturel. Il y a deux femmes qui voulaient revendiquer être la mère d'un enfant. Et les deux disaient, l'enfant m'appartient. Alors Salomon ensuite a été appelé. Il devait juger et décider à qui donner l'enfant. Vous connaissez tous cette histoire. Il s'est assis et a dit, apportez-moi une grande épée. Hein, n'est-ce pas? Une belle administration de la justice, n'est-ce pas? Apportez-moi une grande épée. Et alors il a dit, maintenant, je vais diviser cet enfant en deux et chacune des femmes donner à chacune un morceau. Une partie. Et la femme, qui était la maman, a crié de tout son être. Non, non. Donnez à la femme cet enfant. Mais ne le divisez pas. Et Salomon avait alors simple. Et il a dit, ça, c'est la mère. Il a pu dire, ça, c'est la mère. Cette femme avec le cri de cœur, qui ne voulait pas que l'enfant soit divisé, ça, c'est la mère. Les autres disaient, divise. La chose était déjà réglée. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent diviser, toujours diviser, toujours diviser, qui veulent toujours séparer, diviser. Ce sont ceux qui n'ont jamais souffert, subi les douleurs de l'enfantement. Ceux qui sont venus plus tard, qui se sont assis dans un nid déjà tissé, déjà fini, et qui ensuite le salissent. Des hommes de Dieu qui ont été déterminés à porter la semence divine pour que des enfants de Dieu naissent comme la rosée à l'aube du matin. Ces hommes de Dieu ne viennent pas pour diviser et pour diviser. Ils viennent pour bâtir, pour édifier, pour rassembler, pour unir, pour consoler, pour réconcilier, etc. Mais maintenant, passons à une partie très difficile. Une partie très difficile. Nous allons placer plusieurs choses en face de l'une de l'autre. Et commençons avec cette parole connue que nous avons lue dans les derniers jours, d'une manière particulière, que nous avons relevée dans Luc, chapitre 2, verset 14. Ici, il est écrit: gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix et bon plaisir divin dans les hommes qui l'agréent. D'abord, ce mot paix. Nous allons venir aux autres expressions, mais ici, il s'agit de ce mot paix. Celui qui lit cette parole, paix, il pourrait avoir l'impression que, à ce moment-là, aucune guerre aura lieu, n'est-ce pas? La paix sur terre, alors tout serait en ordre. Partout, la joie et la paix dans tout le pays, oui, sur terre. Car c'est ainsi que c'est écrit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix et bon plaisir divin dans les hommes qui l'agréent. Je vous lis d'Apocalypse, le chapitre 6. Versets 3 et 4. Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4. Lorsque l'agneau ouvrit le second sceau, Apocalypse 6, verset 3, j'entendis le second être vivant crier, viens. Alors sortit un autre cheval, rouge de feu, et il fut donné à celui qui le montait le pouvoir d'enlever la paix de la terre et d'amener les hommes à s'égorger les uns les autres. Et il lui fut donné une grande épée. Les deux sont écrits dans la Bible. Sur la terre, paix. Luc 2, verset 14, et bon plaisir divin dans les hommes qui l'agréent. Et aussi, il est écrit que la paix a été enlevée de la terre et que les hommes ont été amenés seront amenés à s'égorger les uns les autres. Les incroyants lisent la Bible donc et s'égarent et se demandent mais c'est une contradiction. Qu'est-ce que je dois comprendre ici? Non, nous devons donc discerner et distinguer de quelle paix il s'agit. De la paix terrestre ou bien de la paix de Dieu, la paix divine. La paix qui est dans le cœur ou bien alors une paix qui est déjà déclarée paix. Une paix déclarée. Je fais donc volontairement, je lis tout un nombre d'écritures semblables qui semble se contredire, seulement pour nous montrer que nous devons être spirituels pour divinement, de manière divine, classer les choses dans l'ordre biblique. C'est peut-être en fait que Paul dit que l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Elles sont même pour lui une folie. Tout semble pour lui plein de contradictions. Et pour finir, il dit, mais c'est un paradoxe, qu'est-ce que je dois faire encore avec ce livre? Non, mais l'homme spirituel reçoit la grâce de Dieu de classer les choses dans l'ordre biblique, dans leur contexte, de reconnaître de quoi il s'agit ici et de quoi il s'agit là. Tout en son temps et tout à sa place. Dans Ésaïe, au chapitre 9, le verset 6, cette parole connue a été créée avec l'annonce de notre Seigneur, qui a été donnée sur notre Seigneur, quand tu deviendrais homme. Ici, je veux dire ici Ésaïe, chapitre 9. Ici, il est écrit au verset 6. Sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David et pour sa royauté, l'établissant et le soutenant par la justice et l'équité dès maintenant jusque dans l'éternité. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela, l'a promis. Ici, il s'agit de la première partie pour moi. Sa domination sera étendue et la paix ne cessera pas sur le trône de David. Est-ce que vous remarquez ici de quoi il s'agit? Le trône de David, nous l'avons hier déjà mentionné, est le trône du roi. Donc, quand le Seigneur, en tant que fils de David, entrera dans son règne, alors bien sûr qu'il y aura la paix sur toute la terre. Mais qu'est-ce que ici nous avons dit il n'y a pas longtemps, dans beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament? La première venue et la deuxième venue de Christ et ce qui et se passe en relation avec ces venues-là ont été prononcées parfois presque dans un même verset. Donc, il faut que cela soit distingué pour comprendre de quoi il s'agit. Et nous devons aussi reconnaître dans quel temps ce que nous lisons à sa place. Si nous sommes attendus à ce que déjà lors de la première venue de Christ, la paix soit sur terre et que l'agneau et le lion paître ensemble, alors nous n'avons pas bien classé la chose dans l'ordre biblique. Lisons encore dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 de la prière de Zacharie. Luc chapitre 2 à partir du verset 79, donc 79. C'est le chapitre 1, verset 79. Pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas dans le chemin de la paix. Nous pourrions lire beaucoup, ouvrir beaucoup d'écritures dans lesquelles il est parlé de la paix que Dieu a faite avec nous. Il s'agit de l'alliance, de la paix que Dieu a faite avec nous. Et elle commence avec la paix intérieure du cœur, la paix de l'âme en toi et en moi, avant que ensuite cette paix puisse être étendue, s'étendre sur toute la terre. Continuons à lire dans Daniel, le chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Verset 26. Ici de nouveau, une expression est faite qui semble être en contradiction à la paix qui est annoncée. Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines d'année, un oint sera mis à mort sans jugement, sans culpabilité. La ville et le sanctuaire seront détruits par les armées d'un prince qui viendra, dont la fin sera par une inondation. Il y aura des guerres et il y aura des guerres jusqu'à la fin, des désolations décrétées. L'annonce disait, mais il était annoncé qu'il y aura la paix sur terre et le bon plaisir divin dans les hommes qu'il agrée. Cette paix n'aura pas de fin sur le trône de David. Ici, il est dit, jusqu'à la fin, il y aura la guerre et la désolation décrétée. Et alors, nous revenons à cette parole, encore que Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, nous connus de tous, nous n'avons pas besoin de la lire, le verset 2 et 3, quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Donc, prenons les paroles de Jésus, de Matthieu 24. Et il y aura des guerres et des cris de guerre, des famines, des temps chers, disettes, etc. Nous voyons que cela doit être classé dans l'ordre biblique, ordonné à sa place. Jésus a apporté la paix à ceux qui sont proches et à ceux qui sont loin. La paix avec Dieu, pas une paix terrestre. Cette paix terrestre viendra encore, mais elle n'est pas encore là. L'époque du millénium est encore devant nous. Mais nous vivons dans l'époque déjà maintenant dans laquelle nous avons reçu la paix avec Dieu. Et cela par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons chanter, quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exalte et loue. Nous distinguons donc, nous faisons la différence entre la paix terrestre, entre la paix terrestre et la paix céleste, l'humain du divin, le céleste du terrestre. Et nous voyons où est-ce que un verset et l'autre trouvent leur place et leur contexte. Nous allons encore venir à d'autres choses qui sont encore plus difficiles que ça. Allons dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, ici nous lisons à partir du verset 51. Luc chapitre 12, verset 51. Pensez-vous, Luc 12, verset 51, que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la discorde. Bon, mais quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Mais le Seigneur n'a pas besoin de venir pour ça. Sans lui, il y a déjà assez de discorde, assez sur la terre, assez de discorde et de division. Il n'a vraiment pas besoin à cause de ça de venir pour apporter ce qui est déjà là. Mais c'est écrit ici. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la discorde. Car désormais, 5 personnes qui habitent dans une maison seront divisées. 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et cela continue comme ça toujours de nouveau. Dans le prophète Michée, au chapitre 7, tout cela a été prédit à l'avance. Oui, comment est-ce que nous devons maintenant ordonner cela, classer cela dans l'ordre biblique? La paix sur terre et le bon plaisir divin dans les hommes qu'il agrée. Il est notre paix. Son nom est même merveilleux conseiller, prince de la paix, prince de la paix, Père éternel. Et le prince de la paix dit que ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix, mais la discorde, je vous le dis. Le prince de la paix qui dit ça. Et maintenant ici, discorde, quand est-ce que la discorde survient? Quand est-ce que 3 sont contre 2 et 2 contre 3? Si 2 se sont décidés pour le Seigneur et 3 ne se sont pas destinés pour le Seigneur, dans une même maison. Alors là, la discorde commence. Alors il y a le théâtre à la maison. Si toute la maison est sauvée, alors gloire à cette maison. Et gloire à Dieu pour cette maison, mais c'est toujours le cas. Donc cela peut arriver que dans une même maison, quelqu'un est sauvé et les autres ne sont pas sauvés. Ou bien deux sont sauvés et les trois autres ne sont pas sauvés. Cela arrive, comme frère Rousse le dit. Alors qu'est-ce qui se passe alors, quand c'est le cas? Alors, y a la bénédiction dans la maison est difficile et il n'y a plus de compréhension les uns pour les autres. Alors, on vit séparés l'un de l'autre dans la même maison. Et on se tient l'un devant l'autre comme des étrangers. Et personne ne peut se regarder dans les yeux, regarder l'autre dans les yeux et se demander, mais est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes une famille? Vu très récemment, oui. Mais maintenant, il y en a deux ou trois pour ici conserver cet exemple sous nos yeux. De cette famille terrestre, il y en a deux ou bien trois de cette maison qui spirituellement sont sortis de cette famille et sont passés dans la famille spirituelle, ont été placés dans la famille spirituelle. Et déjà, les uns ne comprennent plus, ceux qui sont devenus croyants, ceux qui sont restés incroyants disent, mais est-ce qu'on doit aller à l'église, hein? Vous pouvez aussi servir Dieu à la maison, vous pouvez aussi prier ici à la maison, vous connaissez tous ces arguments. Est-ce qu'on doit aller à l'église? Déjà, tout cela apporte de la discorde. La discorde est à la maison que le Seigneur a apportée. Mais cette discorde a survenu seulement parce que quelques-uns étaient là qui n'ont pas consacré leur vie au Seigneur. Une division, une séparation a eu lieu. Une ligne de séparation, les uns suivent le Seigneur. Et les autres ne suivent pas dans la même maison. Et déjà, il n'y a plus de chemin commun. Il n'y a plus de chemin commun. Il est écrit dans le prophète Amos, chapitre 3. Comment est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? On doit être en accord, être accordé. Mais ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui peut déjà demain être le cas. Peut devenir comme ça demain. Mais on peut décider comment est-ce que nous avons, on peut voir comment nous avons à classer ces paroles dans l'ordre biblique. C'est vrai que le Seigneur vint pour apporter la paix. La paix à ceux qui viendraient à la croix, là où Dieu a fait la paix avec l'humanité. Il n'y a pas de semblant de paix pour les croyants. Une apparence de paix. Il y a seulement pour les croyants la vraie paix avec Dieu. Et la vraie paix avec Dieu a été appelée à l'existence là où l'inimitié a été ôtée et le mur de séparation aussi a été ôté. C'est là, à Golgotha, que Dieu a fait la paix avec nous. Un homme qui a expérimenté dans son cœur, a reçu dans son cœur cette paix divine, en lui s'accomplit cette parole. Et sur la terre, paix aux hommes qui plaisent à Dieu. En fait, c'est comme ça la vraie traduction juste. Pas comme ça en général. Et sur la terre, paix aux hommes, un bon plaisir. Non, non. Les hommes s'occupent ni de la paix de Dieu, et encore moins de ce qui plaît à Dieu. Mais sur la terre, paix aux hommes qui plaisent à Dieu. Alléluia. Ça, c'est le grand mystère. Les hommes en qui Dieu a trouvé son bon plaisir, son affection. Ceux qui plaisent à Dieu ont trouvé la paix aussi avec Dieu. Et cela par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Allons tout de suite à un autre sujet. Peut-être dans la même direction, mais dans un autre aspect. Michée chapitre 4, vous savez, nous vivons dans un temps dans lequel le monde entier utilise ces paroles. Épée en charrue. Vous connaissez cette phrase, alors cette expression, on l'écoute à l'est et à l'ouest de la même manière. Et cela dans le monde entier. Et maintenant, je vais vous lire de la Bible deux contrastes avec lesquels les incroyants ne peut pas en finir, ne savent pas quoi faire. Ici, dans Michée, chapitre 4, verset 3. Michée chapitre 4, verset 3. Alors il jugera un de nombreux peuples et rendra justice aux nations puissantes et lointaines. Puissantes et lointaines. Alors de leur épée, ils forgeront des charrues. Et de leur lance des couteaux. Aucune nation ne lèvera l'épée contre une autre nation. Et ne pratiquera plus la guerre. Ici, il s'agit principalement de ce que nous reconnaissions le contexte. Quand? Alors? Où est-ce que se situe ce alors? À quel temps ce « alors » se réfère? On peut lire dans le premier verset du chapitre 4. Ce temps n'est pas encore maintenant. Je vais vous dire tout de suite dans quel temps nous vivons maintenant. Mais allons dans Joël, le chapitre 4, ouvrons Joël. Et nous allons voir dans quel temps nous vivons maintenant. Joël, chapitre 4. En français, c'est le chapitre 3. Vous savez, l'une des paroles les plus puissantes de Dieu ici est dans Joël. Ici, il est parlé de l'effusion du Saint-Esprit. Beaucoup de choses ont été traitées ici dans ce prophète. Joël chapitre 3, le verset 10. Ici, il est écrit. De vos charrues, forgez des épées. Et de vos couteaux, des lances. Que le lâche dise, je suis un héros. Continuons pas à lire. Vous connaissez le contexte. Ici, il est écrit, de vos charrues forgez des épées et de vos couteaux des lances. Le prophète Michée dit exactement le contraire. C'est vrai? Avons-nous à 100% justement le contraire? Alors, qu'est-ce qui est vrai alors? Les deux sont vrais. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Les deux versets sont vrais, tout est vrai. Tout est juste. Chaque parole est l'absolue vérité. Chaque parole de Dieu. Mais maintenant, il faut répartir les choses dans le contexte. Donc, celui qui lit Joël 3, Joël chapitre 3, il comprend qu'il s'agit ici du jour de l'Éternel qui apparaîtra sur toute la terre. Un jour, comme il n'a jamais existé auparavant. Il remarque qu'ici, il s'agit, dans Joël 3, de la dernière bataille, de la dernière bataille décisive dans ce contexte ici. Vous pouvez avec moi continuer à lire Joël chapitre 3. Nous lisons maintenant à partir du verset 11, on continue à lire. Donc, hâtez-vous d'approcher, vous toutes, nations païennes, d'alentour, et rassemblez-vous. C'est là, ô Éternel, que descendent tes guerriers, que les nations se lèvent et descendent dans la vallée de Josaphat, car c'est là que je m'assiérai pour juger toutes les nations d'alentour. Je ne veux même pas continuer à lire. Parce que si je continue à lire, je lirai le dernier verset. Là, tout de suite, au verset 13, je devrais aller à Apocalypse 14. Et là, il y a tout un nombre d'écritures qu'on pourrait lire ici. Mettez la faucille au verset 13, car la moisson est mûre. Lisez Apocalypse 14. Là, il est parlé exactement de la même chose, la même expression. Peut-être que nous devrions la lire pour que vous puissiez savoir que cela est écrit à 100% de la même manière ici dans Apocalypse 14. Apocalypse, chapitre 14, ici il est écrit au verset 16. Vous pouvez tous lire le verset 14, le verset 15, moi je lis à partir du verset 16. Apocalypse 14, puis celui qui était assis sur la nuée fit passer sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Ça, c'était déjà plus tard. Vous pouvez lire comment est-ce que ça continue plus tard. Lisons peut-être, constater encore le mieux à partir du verset, dans le verset 19, constater le mieux. Là, il est parlé justement de cela, l'ange fit passer sa faucille sur la terre, le verset 19 maintenant, moissonna la vigne de la terre et la versa dans la grande cuve de la colère de Dieu. Il y a deux moissons. Il y a la moisson du blé qui sera ensuite pris dans le grenier céleste, et il y a une moisson de ceux qui ont rejeté Dieu. C'est un jugement qui viendra sur tous les peuples. Donc, vous voyez ici le contexte. Nous pouvons aller retourner dans Joël 3 en relation avec le sixième sceau. Il est écrit au verset 15. Joël 3, verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Si bien que les cieux et la terre tremblent, mais pour son peuple, l'Éternel est un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël. Ça, c'est le jour dans lequel Dieu combattra pour Israël. Nous pouvons ici aller à Ézéchiel chapitre 38 et beaucoup d'autres écritures, inclure beaucoup d'autres écritures. Pour moi, il s'agissait seulement de ce que plusieurs choses et de relever plusieurs choses pour nous montrer comment est-ce que c'est difficile pour les hommes quand ils lisent la parole de Dieu, comme c'est difficile pour eux de répartir les choses. Est-ce que ça nous étonne de voir que les gens lisent la même Bible que nous et ne reconnaissent pas malgré tout le jour et l'heure dans lequel nous vivons? Ils ne reconnaissent pas le message et le message, les promesses. Ils ne reconnaissent pas ce que Dieu a promis pour cette époque dans laquelle ils vivent. Pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que cela ne leur est pas donné de recevoir une vue spirituelle dans la parole de Dieu pour classer correctement les Écritures, pour apporter les versets bibliques dans le contexte juste et dans la période dans laquelle ça s'accomplit. Celui qui, par exemple, lit les évangiles doit aussi distinguer qu'est-ce qui est écrit pour Israël, qu'est-ce qui concerne l'Église, de quoi il s'agit dans ce qu'on lit, de quel contexte il s'agit là-bas. Quand le Seigneur dit, par exemple, « Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu un sabbat, ou bien pendant l'hiver. » Donc moi, ça veut dire que j'ai rien à faire avec cette chose. Cela s'est accompli déjà 70 ans après Christ, 70 ans après Christ, alors que Titus a détruit la ville de Jérusalem. Et Josephus, un écrivain, historien de l'époque, a exposé dans son ouvrage que aucun des vrais croyants à Jérusalem était resté. Car le Seigneur avait dit, quand vous verrez la ville entourée d'armées, fuyez sur les montagnes de la Judée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi à la voix de l'Éternel. Pas un seul vrai croyant a perdu sa vie quand la ville fut détruite. Il y a eu des hommes qui ont reconnu en raison des choses qui se passaient autour d'eux, ils ont su à quelle heure il est. Et ils ne sont pas repartis dans leur maison pour prendre leurs biens. Ils se sont enfuis sur les montagnes de Judée, comme cela a été dit. Maintenant, c'est la même chose. Qui est informé des choses divines, de ce qui se passe? Seulement ceux qui ont écouté le message prophétique de cette heure. Peut-être que vous n'êtes pas toujours en accord avec cela, mais il est toujours écrit, la parole prophétique brille comme une lumière dans un lieu obscur. Ce n'est pas la parole d'un évangéliste qui prêche aujourd'hui. C'est-à-dire, l'un des évangélistes dit une chose, l'autre évangéliste dit encore une autre chose, et le troisième vient avec toute une autre interprétation, et le quatrième vient et veut savoir mieux les choses que les trois premiers et apporte sa propre interprétation. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pas non plus d'une propre prophétie tenue. Il s'agit de la parole prophétique. Beaucoup ont exercé le don de la prophétie et l'exercent encore aujourd'hui. Et foulent au pied la parole prophétique qui s'accomplit sous nos yeux. Aujourd'hui, Nous sommes dans un âge prophétique. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ta prophétie ou bien de ma prophétie apportée en partie. Aujourd'hui, il s'agit de la prophétie parfaite de la parole de Dieu. C'est-à-dire de la parole prophétique. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été amenées dans les plus grandes misères, et j'en fais partie, par des prophéties qui sont venues des hommes dont leur âme, leur esprit et leur corps ont dû subir des choses terribles. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un à qui ça aurait nui d'écouter la parole prophétique. Bien au contraire, ils ont été secourus par Dieu et de Dieu. Et c'est peut-être raison que nous mettons beaucoup l'importance sur la parole prophétique. La parole prophétique ici, nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, là il est parlé, il est écrit concernant l'esprit de la prophétie et du témoignage de Jésus-Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. L'esprit, pas le don de la prophétie, mais l'esprit de la prophétie. C'est une grande différence. Nous sortons des choses apportées en partie et passons à la chose parfaite. Même dans le service de Frère Branham, nous remarquons, nous ressentons comment est-ce qu'il est passé de clarté en clarté, de connaissance en connaissance, de révélation en révélation, d'éclaircissement en éclaircissement. Et lui aussi, il n'a pas pu apporter les choses telles qu'elles lui ont été montrées et révélées par Dieu. Et vous savez que là aussi, Dieu a pris soin. Un soin auquel un homme n'aurait pas pensé. Qu'est-ce que moi, je connaissais d'un plan du salut de Dieu? Qu'est-ce que moi, je savais de toutes ces choses qui se passent aujourd'hui, dans les années 55? Rien du tout. Qu'est-ce que moi, je pouvais savoir de cela? Qu'est-ce que je pouvais savoir en 1958, alors que subitement, un mercredi, je suis allé à deux de ses frères, à Léo et James, et j'ai dit, je vois que entre Branham et tous les autres évangélistes, il y a une grande différence. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ces prédications? C'est ainsi que ça a commencé. Oui, qui a pris soin de ça? Qui a pris subitement cette décision? Qui a mis cette décision subitement dans mon corps? Pourquoi est-ce que je devais prononcer ces choses? Depuis ce temps, j'ai reçu toutes les prédications de Frère Branham. Je pouvais grandir avec ces prédications. Je n'ai pas sauté comme ça, en parachute quelque part, comme ça, mais dans le royaume de Dieu, non. Mais subitement, spirituellement, n'est-ce pas, j'ai grandi dans le royaume de Dieu. J'ai grandi avec ces prédications. 3-4 semaines après que les prédications furent tenues aux États-Unis, elles arrivaient chez moi à Krefeld. Je ne les ai pas écoutées seulement une seule fois, mais plusieurs fois et souvent. Et là, nous venons à un point que je voudrais mentionner brièvement. Beaucoup de ceux qui prétendent connaître et prêcher le message de l'heure. En ma présence, ils ne prêcheront pas ce qu'ils prêchent. Je connais deux choses trop bien. La Bible et les prédications de Frère Branham. Combien de choses sont attribuées à Frère Branham, interprétées, qui n'ont rien à voir à faire avec Branham. On lui fait dire des choses qu'il n'a pas dites. Et la congrégation écoute, le peuple écoute, quand on leur dit, ça c'est quelque chose que Frère Franck ne vous a pas encore édité, publié. Oh, ça c'est un leurre. C'est des choses qui sont dites pour attirer. Vous pouvez bien vous imaginer, rendez une chose mystérieuse et enveloppez-la bien avec du papier de Noël et vous pouvez bien la vendre. Il y a tellement de bavards et d'escrocs qui n'ont pas entendu parler d'un appel et d'une responsabilité divine et encore moins l'ont reçu ou en ont une idée. Mais il faut que ce soit ainsi parce que cela fait partie du développement de la fin des temps. Je crois que Dieu nous a accordé sa grâce et que cela ne vient pas de nous. Mais c'est parce que lui, il veille sur sa parole et aussi il veille sur son peuple qui a reçu sa parole C'est pour cette raison qu'il ne nous laisse pas tomber d'erreur en erreur, mais nous conduit de clarté en clarté. Mais ça aussi, ce sera toujours vrai. Des hommes qui quittent le chemin droit marchent ensuite sur le chemin de Balaam. Il n'y a pas un autre chemin qui reste à suivre. Alors, plusieurs choses alors apparaissent en eux. Et ils révèlent ensuite, ils manifestent ensuite, en fait, leur propre nature, cette propre nature qu'ils ont conservée cachée auparavant. Revenons à ces deux écritures. Dans l'une, il est écrit, « Forgez vos charrues en épée et vos couteaux en lance. » Et ensuite, après, la dernière bataille nous est décrite, la bataille de Magédon, dans la plaine de Megiddon, dans la vallée de Josaphat, par laquelle plusieurs fois, n'est-ce pas, nous sommes venus. Là-bas sera la dernière bataille décisive. Quand elle sera passée alors? Quand cette bataille sera passée et que le Seigneur reviendra pour sur terre établir le millénium, alors tout les instruments de guerre pourront être reforgés, donc les épées en charrue, selon Michée 4, 3, pour de nouveau être utilisées dans la vigne. Vous voyez, tout en son temps. Dans le contexte juste, et là nous pourrions aller à Ésaïe 65 et dans beaucoup d'autres versets bibliques pour nous montrer comment est-ce que cela se passera. Il y a une pensée que je voudrais ici relevé de Michée 4, le chapitre 4, verset 3, je voudrais encore relever, et ensuite aller dans le Nouveau Testament, encore lire, comme déjà hier, ou bien hier après-midi, je l'ai fait. Michée 4, verset 3. Alors, il jugera entre de nombreux peuples. Maintenant, je vais dans Matthieu. S'il vous plaît, ouvrez Matthieu avec moi. L'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront alors rassemblées devant lui, tous les peuples. Et il les séparera les unes des autres. Est-ce que vous remarquez ici comment est-ce que ces deux paroles-là sont à 100% ajustées l'une avec l'autre? Je vous lis dans Ésaïe, chapitre 2, verset 4. N'oubliez pas Michée 4, verset 3, pour voir que ça s'applique dans ce contexte-là. Ésaïe, maintenant, chapitre 2, verset 4. Ici, une expression semblable est écrite, comme nous venons de le lire dans Matthieu 25, 32, et puis dans Michée 4, verset 3. Maintenant, dans Ésaïe 2, verset 4. Alors, il jugera entre les nations. Il fera justice à de nombreux peuples. Ils forgeront des charrues avec leur épée et des couteaux avec la pointe de leur lance. Si encore ici, nous tirons en comparaison, quand est-ce que ces prophètes-là vivaient? Ce prophète-là vivait, par exemple, le prophète Ésaïe, par exemple, 810 ans avant la première venue de Christ, tous les autres prophètes, dans plusieurs autres différentes périodes, et tous par le Saint-Esprit, dans une harmonie parfaite, divine, ils ont écrit ce qui leur a été accordé par inspiration. Si aujourd'hui, quelqu'un est rempli et inspiré du même esprit de Dieu, alors il va rétablir dans la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu, la même harmonie. Parce qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Elle ne peut pas exister. Parce que extérieurement, ça peut sembler être ainsi qu'il y a une contradiction. On lit ici, on lit là, sans comprendre. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Quand on lit ici dans Ésaïe 2, verset 2, ici il a parlé des temps. Dans les derniers jours, à la fin des temps, Ésaïe 2, verset 2, le temple de l'Éternel sera établi au sommet des montagnes. Il s'élèvera au-dessus des hauteurs. et toutes les nations. Et ils diront, de nombreuses nations iront et diront, venez et montons, verset 3. Montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, etc. Qu'est-ce que c'est? Cela nous montre, ici déjà, le passage dans le millénium. Alors, qui veut que nous puissions encore tirer encore deux, trois comparaisons de la même manière, comme ça, qui sont dans différents contextes? Lisons dans Jean 17, nous devons utiliser le temps pour, le plus possible, observer beaucoup de paroles de Dieu avec cette seule pensée que nous soyons aidés. Aidés à mieux comprendre la parole de Dieu dans les différents contextes dans lesquels elle est écrite. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21. « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'il soit donc aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Sur l'unité, il est aussi beaucoup parlé. Mais il y a deux sortes d'union. Une union divine et une union qui n'est pas divine. Une union avec Christ, par Christ et soumis à Christ comme chef de l'Église, une tête de l'Église. Et ensuite, il y a une union sous l'Antichrist. Et à la fin, il n'existera que deux choses. Parlant spirituellement, ici il est écrit, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es à moi. Quand est-ce que nous pouvons être un avec Christ? Jésus, en forme humaine, comme fils de l'homme, disait, tel, afin que toi, comme toi, Père, tu es à moi. Comme toi, Père, tu es à moi. Parce que Dieu, donc dans ce cas, comme Père était dans le Fils, c'est pour cette raison qu'il y avait une union parfaite. Donc, si le Fils est en toi et en moi, alors cette union est de nouveau ramenée à Dieu. Dieu en Christ, Christ en nous. Et l'union, l'unité est devenue parfaite ainsi. Pas une unité, une union sous un homme comme chef. Mais que Paul dit, adressé aux Galatiens, dans sa première épître, dans son premier chapitre de l'épître aux Galatiens. Parce qu'il a plu à Dieu de révéler en moi, manifester en moi son Fils, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a qu'une seule relation avec Dieu. Elle a lieu par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Avec toi, avec moi, avec nous tous. Dans une association, les gens peuvent se mettre d'accord. Alors, les règlements sont mis sur papier et les préceptes sont tous et existent tous. Et ensuite, chacun dit oui à cela. Mais ce n'est pas avec nous ici, ce n'est pas possible. Il faut que ce soit une union spirituelle, divine. Des premiers chrétiens, il est écrit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Ils étaient d'un commun accord, un courage, un esprit, un sentiment, un objectif, une église, une vérité, un amour, tout. Venant de Dieu, dans l'Église, se manifestant parce que Christ avait établi sa demeure par l'Esprit dans les cœurs de chacun, dans les cœurs de chaque croyant. Donc, il s'agit de l'union, de cette union-là, parmi les croyants, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Christ en toi, Christ en moi, toi et moi, la relation, chacun a la relation avec lui, un avec lui, chacun un avec sa parole, ensuite un les uns avec les autres, et cela par Jésus-Christ notre Seigneur. Pas est-ce que tu vois ça comme ça, comment est-ce que tu vois ça comme ça, est-ce que tu vois ça comme ça, mais est-ce que tu vois comme Dieu le voit par Jésus-Christ notre Seigneur. Combien de fois il y a des frères qui vont toujours partout dire, est-ce que tu vois ça comme ça? Mais comment est-ce que tu vois cela? Arrêtez avec votre voir. Celui qui a vu, qui puisse remercier Dieu et continuer à marcher le chemin de Dieu. on a toujours souligné que nous serons enseignés par Dieu. Et cela par la parole et par l'esprit. Il ne s'agit pas de comment est-ce que quelqu'un voit quelque chose ou bien voit les choses. Maintenant, ce qui concerne l'union, nous allons de nouveau passer à une autre, dans un autre contexte. De, donc, dans Luc chapitre 12, ici, au verset 52, et ce n'est pas une contradiction, Luc chapitre 12, maintenant le verset 52. Ici, nous avons déjà, n'est-ce pas, lu la première, une partie. Luc chapitre 12, verset 52 et verset 53. Lisez maintenant ces versets, encore une fois, Luc 12, verset 51-53, et comparez cela avec la paix et avec être un. Le Seigneur est venu pour apporter la paix. À qui? À celui qui la reçoit, qui l'accepte, qui la croit. À celui qui se laisse sortir de tout, ou bien sort de tout, et un tel homme portera la paix dans son cœur. Nous avons aussi déjà lu cela ici, dans Luc 12, c'est-à-dire le verset 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix? Luc 12, verset 51, nous l'avons souligné, relevé. Les deux se passent de manière parallèle. L'une s'est accomplie dans la semence divine, dans les enfants de Dieu qui subitement deviennent un corps étranger dans la famille, dans la société, dans le pays. Ça n'a pas d'importance. Où est-ce que nous nous trouvons sur terre? Au moment où nous avons pris au sérieux d'être disciples du Seigneur, le suivre, de porter notre croix et le suivre et de nous renier nous-mêmes, nous ne serons pas reconnus sur terre. Jamais. Je peux vous le lire de l'évangile de Jean, le chapitre 17, car ici le Seigneur dit, en parlant de nous comme les siens, que nous ne sommes pas de ce monde, tel que lui n'était pas de ce monde. Je vous lis dans Jean, chapitre 17, le verset 6. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est à toi qu'ils appartenaient. C'est à moi que tu les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Jean 17, verset 6. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Et ils les ont reçues. Et ils ont su en vérité que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Ici, il est parlé du nom et de la parole. Si le nom dans lequel Dieu s'est révélé nous a été fait connaître, alors nous écouterons aussi sa parole, pas seulement avec nos oreilles, mais avec le cœur. En fait, je sais encore ce verset où il est écrit, « Vous n'êtes pas de ce monde, tel que moi non plus, comme moi non plus, je ne suis pas de ce monde. » Le verset 11. Donc, lisons le verset 11. Jean 17, verset 11. Ici, il est écrit, « Et moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont encore dans le monde. Pendant que je vais vers toi, Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. » Que tu m'as donné de faire connaître, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Maintenant, le verset 15 est aussi proposé. Nous pouvons lire, n'est-ce pas, tout le chapitre. Lisons maintenant le verset 14 et le verset 14 et le verset 15. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du malin. Donc, il n'était pas de ce monde et nous non plus, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, il était aussi dans ce monde, mais pas de ce monde. Des hommes qui sont nés de Dieu, leur patrie est au ciel. Nous avons ici un passeport, une carte d'identité qui a à voir à faire seulement à notre nationalité terrestre. Notre bourgeoisie, notre patrie est au ciel. Dieu a un troupeau de tous les peuples, les langues et les nations qu'il a appelé à sortir. Nous devons le supporter que le monde ne veut pas nous avoir et qu'il nous rejette et que nous sommes ignorés, méconnus. Est-ce que cela est ainsi? Nous devons le supporter. Heureux celui qui ne se plaint pas de ça, et de dire plutôt, Seigneur, c'est ainsi, c'est bien ainsi, car c'est en cela que je reconnais que je suis détaché de cette terre et que mes racines ont été, j'ai été déraciné de cette terre et que je suis né de nouveau et que je voudrais aller à la maison déjà. Dans ma patrie céleste, notre patrie est dans les cieux. Abraham cherchait cette ville à venir, il habitait dans des tentes. Et vous savez ce qu'il disait, je cherche la ville que Dieu a bâtie, qui a un fondement solide. Et Paul écrit dans Galates 4 qu'il parle de la Jérusalem dans le ciel céleste. La Jérusalem céleste est notre maison à tous, est notre mère à tous, pardon. C'est de là-bas que nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau. Selon les traductions dans Jean 3, il est écrit « Celui qui est né de nouveau » ou bien alors « Celui qui est né d'en haut ». Né de nouveau veut dire par l'esprit et par la parole être né de nouveau, naître de nouveau. Nous voulons de tout notre cœur remercier le Seigneur pour cela et savoir que comme croyants, nous accomplissons par cela le commandement du Seigneur en nous aimant les uns les autres, c'est-à-dire de l'amour divin qui a été manifesté à Golgotha. Beaucoup d'hommes parlent de l'amour de Dieu et ne savent pas de quoi ils parlent. Pour eux, l'amour est comme leur chemin. Au moment où peut-être il y a une peut-être différence d'opinion, déjà l'amour cesse. Hein? Et cela, ce n'est pas possible ainsi. L'amour de Dieu est sans limite, sans frontières. Et cet amour a été manifesté à Golgotha. Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Et ça, c'est un amour en action. L'amour prouvé de Dieu par les actes, manifesté dans la réconciliation, par la rédemption, par la grâce, par le salut, par le pardon et par tout ce qui appartient à l'amour. Si nous sommes les rachetés, alors en nous, parmi nous, il y a le pardon pour toi et pour moi et la réconciliation les uns pour les autres. Et il y a pour les uns pour les autres, c'est pour chacun de nous qui sommes nés de nouveau une question d'évidence. C'est évident pour nous. Si on a du mal à pardonner son frère, alors je me demande, on doit se demander si notre propre passion, si notre propre pardon, nous l'avons reçu. Ce n'est pas un pardon qu'on croit aujourd'hui, qu'on doute demain. Aujourd'hui, oui, demain encore dans le doute, et encore après demain, oui, et après encore non. Comme ça, non. Est-ce que je dois vous rappeler de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 et 21. Toutes les promesses de Dieu sont dans Christ Jésus. Oui et Amen. 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était dans Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Colossiens 1. Il est notre réconciliation. Il est notre paix. Il est notre salut. Il est tout en tous. Acceptons cela une fois pour toutes comme un don de Dieu, de grâce, et ne doutons plus à cela. Et alors, nous pourrons aussi mettre Jean 13 en pratique. Jean chapitre 13 et 35, versets 34 et 35. Jean 13, ici il est écrit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous devez aussi vous aimer les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que cela soit un amour divin qui vainc tout, qui surmonte tout, qui supporte tout. Vous savez que ce n'est pas facile. Parfois, nous avons des épreuves à surmonter, à réussir, des choses qui vont à l'encontre de la tendance. Mais que nous puissions, estimer la grâce de Dieu au-dessus de toutes choses. Et attacher fermement, retenir fermement le lien de la paix, de l'amour. On doit avoir le vouloir à cela. Il y a deux dons. Il y a deux sortes de dons. Les uns ont un don direct avec une seule phrase. Dire quelque chose par colère, avec une seule phrase, dans la colère, et blesser l'autre. Mais d'autres ont le don de déjà réparer le mal qui s'est passé avec une seule phrase. Des hommes de paix sont conduits par Dieu dans la paix. Et celui qui est conduit par Dieu dans la paix, il ne s'énerve pas. Et celui qui ne s'énerve pas, il ne parle pas rapidement des choses sans avoir réfléchi. Celui qui peut rester calme, encore, il a encore le temps de réfléchir avant de dire quelque chose. Il a même le temps d'évaluer ce que pourrait produire sur les autres ce qu'il dirait. Donc, nous voulons demander à Dieu de nous conserver dans le repos, dans le calme et la tranquillité et la paix. Parce que ce que la colère de l'homme fait pas, ne fait jamais ce qui est juste devant Dieu. Un peu d'impatience, d'énervement pourrait déjà blesser ce qu'on dirait. Ce qu'on dirait pourrait déjà blesser. Donc, être conduit par l'Esprit de Dieu dans la paix. Et peut-être penser deux fois avant de parler une fois. Et ça, je me le dis à moi-même aussi, avant de vous le dire à vous tous, comme je vous le dis à vous tous. Dieu accordera sa grâce pour que aussi avec les paroles et nos paroles et nos actes, nous puissions servir le Seigneur et être une bénédiction pour notre prochain. Et ainsi, en esprit, par le lien de la paix, conserver l'unité de l'esprit. Parfois, ce sont des petites choses qui produisent de grands dégâts. Et là, que Dieu puisse nous accorder sa grâce, de se tenir de son côté, vivre dans sa présence, et vraiment comme des hommes qui produisent la paix, exister. Car c'est ainsi que c'est écrit. Il a uni les deux en lui et il a créé un homme nouveau qui procure la paix. L'homme nouveau en toi et en moi ne peut pas être autre chose et manifester une autre nature que celle de celui qui l'a engendré. Et celui qui est né de Dieu, il doit avoir la nature de Jésus-Christ lui-même. Et s'il l'a, elle se manifestera aussi. Que le Seigneur puisse réussir cela avec nous. Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous voulons que cela se passe? Car nous devons le vouloir. Et que Dieu nous accorde de vouloir le faire. Pour que nous le soyons agréable. Alors il nous laisse savoir. J'ai déjà préparé tout. Venez et recevez de ma plénitude. Grâce sur grâce. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.